Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à toutes, nous poursuivons aujourd'hui notre série de rediffusions estivales. Rescapé de la chasse aux sorcières qui sévit en Turquie, le quotidien arménien Jamanak est le plus vieux journal de Turquie. 110 ans tout juste, il est le survivant d'un autre âge, celui d'un empire ottoman qui comptait encore beaucoup de citoyens arméniens. 100 ans après les massacres de 1915, la diffusion de Jamanak est très réduite, tout comme le lectorat auquel il s'adresse. Sans doute la clé de sa liberté. À Jamanak, on parle de génocide arménien. À Istanbul, le reportage d'Anand
Lauer. Tout au bout d'une salle de rédaction étroite, mais baignée de lumière, Ara Kochunian dicte un dernier article. À l'ancienne, comme le faisait son grand-père, dont il a pris la suite en 1996. Il est bientôt midi, l'heure du bouclage approche. Trois secrétaires de rédaction peaufinent la mise en page, ajustent la titraille, vérifient l'orthographe. Jamanak paraîtra ce soir, comme tous les soirs, 6 jours sur 7, depuis quasiment 110 ans. Cela fait de ce journal le plus vieux de Turquie, mais aussi le plus vieux journal arménien du monde publié sans interruption. En arménien occidental, la langue des Arméniens de Turquie. Quand Jamanak, le temps en français, est né le 28 octobre 1908, la Turquie s'appelait l'Empire ottoman. Et Jamanak n'était pas encore un quotidien minoritaire, souligne Ara Kochunian, le rédacteur en chef.
À l'époque, les Arméniens étaient très nombreux à travers tout l'Empire et pas seulement dans sa capitale, Istanbul. Jamanak était diffusé chaque jour à 15 000 exemplaires, des Balkans au Caucase en passant par l'Égypte. Les intellectuels arméniens les plus importants de l'Empire écrivaient dans ces pages. C'est sous la période républicaine que Jamanak est devenu de plus en plus un journal minoritaire.
Le Jamanak de 2018, son nom écrit en lettres rouges sur 4 pages en noir et blanc, ne tire plus désormais qu'à 1200 exemplaires. Il se vend dans les kiosques des quartiers d'Istanbul où vivent le plus les Arméniens ou sur abonnement. Préparé en petit comité, 10 personnes, imprimeur compris, le journal couvre l'actualité de la Turquie, de l'Arménie et de leurs relations, mais il relaie surtout le quotidien de la communauté arménienne de Turquie. Ara Kochunian se sent investi d'une mission.
Nos lecteurs ont 3 caractéristiques. Ils sont citoyens de la République de Turquie, ils sont ethniquement arméniens et ils sont membres pour la plupart de l'Église apostolique arménienne. L'une des missions les plus importantes de notre journal, c'est de montrer qu'une langue parlée par une toute petite communauté peut servir à raconter ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est important car notre langue se perd, notamment chez les jeunes. Alors ici, vous voyez la statue du fondateur de notre journal. Et là, c'est la une du tout premier numéro et celle du 100e anniversaire.
Dans la famille Kochunian, la passion pour le journalisme et la langue arménienne se transmet depuis 110 ans. Le fondateur Misak Kochunian, dont l'imposant buste de bronze accueille le visiteur, était le frère de l'arrière-grand-père d'Ara Kochunian. La mère d'Ara, Nadia, est directrice de publication.
Nous travaillons dans des conditions difficiles, avec peu de personnel et peu de gens capables de faire ce travail journalistique en arménien. Moi, ça fait 35 ans que je suis ici. Je prendrai bien ma retraite, mais il n'y a personne pour me remplacer. Cela dit, je fais ce travail avec beaucoup de plaisir.
Cette arménienne d'Istanbul considère Jamanak, aussi peu diffusé soit-il, comme un lien nécessaire à sa communauté.
Jamanak est important non seulement parce que c'est une institution qui perdure depuis 110 ans, mais surtout parce qu'il paraît tous les jours dans notre langue maternelle, l'arménien. Je connais beaucoup de lecteurs qui s'étaient éloignés de leur langue faute de pouvoir la lire au quotidien et qui l'ont apprise ou réapprise grâce à notre journal.
Les fenêtres de Jamanak donnent sur le clocher d'une église arménienne et au-delà sur la façade d'une école arménienne dans le vieux quartier de Feriköy. Le journal vit au cœur et grâce à la communauté arménienne de Turquie, officiellement 60 000 âmes, surtout à Istanbul. Les annonces qu'elle publie dans les pages du journal sont sa seule source de revenus. Jamanak paraît également dans un contexte délétère pour la liberté de la presse, en voie d'extinction en Turquie. Arak Ocunian affirme pourtant n'avoir jamais subi ni censure ni discrimination.
En Turquie, la communauté arménienne regroupe un large réseau d'institutions qui, malheureusement, il faut bien le dire, sont parfois victimes de discrimination du seul fait qu'elles sont arméniennes. Mais moi, je suis heureux de dire qu'en 25 ans passés à ce poste, pas une seule fois je n'ai eu à me plaindre d'un traitement différent ou d'une quelconque censure. Au contraire, l'État nous verse depuis 4-5 ans une subvention qui, même si elle est minime, est très importante symboliquement.
Pour preuve de son indépendance, le rédacteur en chef évoque sa couverture du génocide de 1915, que la Turquie n'a jamais reconnu.
Nous n'avons aucun problème à évoquer le génocide. D'ailleurs, nous écrivons bien « génocide » lorsque nous en parlons. En 2015, pour l'année du centenaire, nous avons publié un numéro spécial. Après tout, notre journal a été témoin du génocide arménien et même un survivant de ce génocide. Nous avons alors republié des articles racontant ce qui s'était passé dans les bureaux de Jamanak au lancement du génocide. Nous avons aussi édité deux livres tiré des chroniques dans notre journal de deux intellectuels arméniens massacrés.
Malgré un lourd passé et un présent incertain, Arak Ocunian veut croire que Jamanak paraîtra encore dans 100 ans et qu'il y aura donc toujours, à Istanbul et au-delà, des Arméniens pour le feuilleter.
Il y a eu 31 coups de couteau, si je me souviens bien.
C'est lui qui l'a tué, mais c'est l'État qui lui a dit de le faire.
L'État-providence suédois, les services sociaux scandinaves égratignés dans un documentaire qui ne joue pas la carte du consensus. Là où les putains n'existent pas, réalisé par Ovidie, commence par un fait divers terrible, celui d'Eva Marie, 27 ans, tuée en 2013 de 31 coups de couteau par le père de ses deux enfants dans les locaux des services sociaux suédois. À travers ce cas et bien d'autres, la réalisatrice dénonce un État moralisateur tout puissant qui ne sait pas protéger les plus faibles. Ovidie a raconté à Catherine Roland comment le cas emblématique d'Eva Marie a dérapé.
À l'origine de cette histoire, Eva Marie s'était retrouvée seule, donc avec ses enfants en bas âge. Elle fuit un compagnon violent qui avait déjà un casier judiciaire, qui était toxicomane, qui avait des problèmes psychiatriques diagnostiqués à ce moment-là, dont elle s'était plainte auprès des services sociaux. Sauf que cet homme-là a appelé les services sociaux pour dire « je soupçonne mon ex-compagne de se prostituer ». Et effectivement, elle s'était prostituée 2 semaines. Et c'en était trop pour les services sociaux. C'était un motif suffisant pour lui retirer ses enfants et pour les placer chez cet homme qui avait donc des antécédents de violence. Donc c'est assez intéressant parce qu'en Suède, il vaut mieux confier des enfants à un homme violent qu'à une femme qui s'est prostituée.
D'ailleurs, vos témoins sont très durs avec le système suédois. On entend cette accusation. L'État-providence peut se transformer en État totalitaire.
C'est vrai que c'est un pays qui est missionnaire, qui aime exporter ces modèles, qui se présente comme le pays idyllique où il n'y a pas de problème de criminalité, où le sexisme n'existe pas. Et en fait, quand on commence à gratter, il y a un peu des relents d'ex-URSS, c'est-à-dire au nom d'une idéologie, on va cacher sous le tapis tout ce qui est un petit peu dissonant et tout les histoires un peu sordides. Et c'est ce qui s'est passé avec Eva Marie. Ils se sont couverts, les institutions se sont couvertes les unes les autres. Là-bas, il n'y a pas cette culture de ce qui est un peu dissonant, de ce qui est un peu embêtant dans les médias. Donc surtout, on n'en parle pas.
Le pire, c'est que l'autorité parentale est conservée au père, qui a donc été condamné à une peine assez lourde, et que les grands-parents, eux, n'ont plus du tout de nouvelles de leurs petits-enfants et qui n'ont pas le droit de les voir, en fait.
Le père, donc, qui a écopé de 18 ans de prison, là, du fin fond de sa geôle, a toujours autorité parentale. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir par exemple que la mère d'Eva Marie, puisqu'elle-même a enfanté d'une prostituée, donc elle est aussi fautive que la prostituée, donc elle ne peut pas s'occuper d'enfants.
On se dit quand même que dans ce pays où l'enfant est roi, que les services sociaux soient aussi puissants, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais en fait ce que vous dites, c'est qu'on peut tout perdre quand on n'est pas vraiment conforme à l'idée que se fait la société suédoise d'une femme, à l'idée de la morale suédoise.
Il y a quelque chose qui est très spécifique à la société suédoise, c'est effectivement cette morale. Il y a eu une sorte de pacte, je dirais, de convergence des luttes entre les conservateurs et les féministes dans les années 80, où ils se sont tapés dans la main pour opter pour des lois communes, dont une qui est très connue puisqu'elle a été déclinée, même en France, elle a été adoptée en France, mais dans plusieurs pays comme la Norvège et le Canada, c'est la pénalisation des clientes prostituées. Et donc il y a eu ce moment où il y a eu ce pacte néfaste entre des forces religieuses conservatrices très fortes et des mouvements féministes. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'au nom des droits des femmes, on a réussi à faire passer des mesures extrêmement conservatrices. En fait, la Suède a vraiment envie de rayonner dans le monde entier. Par exemple, au moment où la Suède est entrée dans l'Union européenne, toute la propagande qui avait été mise en place auprès de la population suédoise, c'était que donc grâce à la Suède, l'Europe allait devenir un petit peu plus humaine, un petit peu plus morale. Et je trouve que c'est quelque chose qui reflète assez bien, finalement, la pensée suédoise.
Oui, alors ça va très loin, puisque dans le cas du drame qu'a vécu Eva-Marie, donc assassinée dans les locaux même des services sociaux, alors que pour la première fois, au bout de 4 ans quasiment, elle pouvait voir ses enfants, et jamais les services sociaux, finalement, ne seront sanctionnés.
Il n'y a pas d'enquête. Il y a eu des personnes qui étaient en charge de cette affaire qui ont été secrètement mutées. Ils ont tellement persisté dans l'erreur que ça a pris des proportions folles. En 4 ans, c'est devenu tellement énorme que ça ne pouvait qu'aboutir à ce meurtre.
Et vous pensez justement que ce drame, que ce cas est devenu emblématique d'une forme de répression puritaine du pays? Il y a quand même peut-être des choses à sauver là-bas.
Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas juste l'histoire d'Eva-Marie. Des histoires comme Eva-Marie, il y en a d'autres. Bon, l'histoire d'Eva-Marie, elle est plus spectaculaire aussi parce qu'Eva-Marie était une personne qui avait fini par devenir public. Elle s'est beaucoup investie dans des milieux militants, elle a fait partie du Parti du Centre, elle a fait partie de divers syndicats, d'associations de prostituées, voilà. C'est quelqu'un qui avait décidé de prendre la parole publiquement.
Elle ne s'est pas laissée faire.
Elle ne s'est pas laissée faire, et c'est parce qu'elle ne s'est pas laissée faire, d'ailleurs, qu'on s'est encore plus acharné contre elle. C'est-à-dire, s'il y avait eu un peu de repentir, s'il avait dit « pardon, petit Jésus, je ne le referai plus », elle ne se prostituait plus, de fait, mais elle ne s'est jamais excusée, et je pense que c'est ça qui était intolérable auprès de la société suédoise. Toute cette histoire, ça pose quand même la question de qu'est-ce que c'est une bonne mère, quoi. Toute la dichotomie de la maman et de la putain. En quoi la sexualité d'une femme rémunérée ou pas, peu importe, en quoi ça peut venir remettre en question la légitimité maternelle d'une femme? Moi, je trouve que ça pose question, tout cet acharnement qu'elle a subi pour 5 clients, rappelons-le, quoi.
Là où les putains n'existent pas, un documentaire d'Ovidie pour la chaîne Arte.
Ils ont traversé toute l'Europe jusqu'au Grand Nord, la Finlande. Mais arrivés à leur destination, ces Irakiens, Afghans ou Somaliens se sont vus refuser leur statut de réfugiés. 1450 demandes d'asile ont été déboutées pour 1400 acceptées. Un retournement dans la politique d'accueil du pays depuis que les contrôles aux frontières ont été rétablis en 2016. Sans statut de réfugié, mais pas sans droit, voilà comment une ONG financée par la région d'Helsinki cherche à leur venir en aide. C'est le reportage sur place de Laurent Berthaud.
En 2015, Haider Al-Jouraïj fuit l'Irak et après 6 mois passés dans un centre d'accueil en Finlande, il obtient le statut de réfugié. Depuis, il essaie de maîtriser le finnois et tente de s'adapter au rude climat. Aujourd'hui, il travaille pour l'Institut des Diaconesses, l'ONG chargée par la région d'Helsinki d'aller à la rencontre des déboutés du droit d'asile. Plusieurs fois par semaine, il part en maraude dans la capitale. Je le retrouve dans le grand centre commercial à 2 pas de la gare.
On essaye de repérer ces personnes une fois qu'elles ont quitté le centre d'accueil pour réfugiés, car elles n'ont plus le droit d'y rester. On va dans les gares routières, dans les restaurants, chez les barbiers, et puis on commence à être connu, alors parfois on reçoit un coup de fil, comme maintenant.
Hello Darham, hello Galbi Shonek. Allah alhamdulillah, habibi.
Cette fois-ci, c'est un compatriote qui a besoin de se faire soigner. Haider lui donne une adresse et lui explique comment s'y rendre.
On entre dans la gare centrale d'Helsinki.
Et c'est là que nous rencontrons Ali, 43 ans. Cet Irakien originaire de Basra a déjà déposé 3 demandes d'asile, comme la loi l'y autorise, et essuyé 3 refus, une décision qu'il ne comprend pas.
Moi, je remets en cause la capacité des services finlandais de l'immigration à déterminer quelle zone est vraiment à risque en Irak. Pourquoi ne pas accorder le droit d'asile aux gens qui viennent de provinces instables où il n'y a pas de sécurité? En fait, nous ici, on a fini par comprendre que les personnes chargées d'examiner notre dossier en Finlande ne connaissent pas la vraie situation sur place. Et c'est catastrophique pour nous.
Ali a encore deux possibilités de recours, d'abord devant un tribunal administratif, puis, en cas de décision négative, devant une dernière instance d'appel. Mais il n'a pas trop d'espoir. Haider tente de lui remonter le moral.
Tous ces gens sont stressés, ils ont peur, ils sont abattus, car ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. En fait, ils sont désespérés. Et nous, on essaye d'établir le contact avec eux, de construire une relation de confiance. On essaie de voir comment les aider. On n'est pas chargé de les renvoyer chez eux, car on n'est pas de la police. On n'est pas non plus autorisé à leur donner les papiers pour rester ici. C'est en tant qu'être humain que nous les aidons.
L'Institut des Diaconesses a donc ouvert dans l'un de ses bâtiments un appartement de jour pour accueillir ces migrants. On leur sert une boisson chaude, à manger, ils peuvent prendre une douche, laver leur linge, s'y reposer. Un psychologue est également présent. On les informe aussi qu'ils ont encore des droits en Finlande.
D'abord, ils ont le droit à une aide sociale, des coupons pour acheter à manger dans les magasins d'une valeur de 50 euros et des tickets de bus pour circuler dans Helsinki. Ils peuvent aussi bénéficier de soins gratuits pour voir un médecin, une infirmière, un dentiste, un psychologue, un psychiatre. Ils ont droit également à une aide juridique, voire un avocat pour savoir s'ils ont le droit de redéposer une demande d'asile ou voir s'il y a une autre possibilité de rester légalement dans ce pays. Et puis, bien sûr, le logement. Il y a des refuges d'urgence et des centres d'accueil de jour pour les protéger du temps froid.
Des solutions qui ne peuvent être que provisoires. L'autre rôle du centre, c'est d'inciter autant que possible les déboutés du droit d'asile à rentrer dans leur pays. Mika Paasolainen, responsable de ce service à l'Institut des Diaconesses.
On ne leur dit pas qu'ils doivent partir, on les informe de la possibilité qu'ils ont de repartir volontairement dans leur pays. Mais la décision leur appartient. S'ils ne veulent pas repartir, on ne les force pas. On leur dit que sans statut, il est impossible d'avoir un logement décent, ni d'aide de la part de l'État. Dans ces conditions, c'est difficile de rester en Finlande, surtout en hiver. Certains l'admettent, d'autres répondent qu'ils préfèrent vivre ici sans papier que de risquer d'être tués en rentrant dans leur pays d'origine.
Depuis le début de ce programme, en juillet 2017, seules 18 personnes ont accepté de bénéficier d'un programme de retour volontaire. L'Institut des Diaconesses travaille en coopération avec l'Office international des migrations, mais aussi avec les services finlandais de l'immigration, qui lui demandent parfois des informations sur les migrants.
Ils le font, mais en fait, ils demandent des statistiques générales. Combien de gens sont ici? Quel est leur pays d'origine? Quelles informations leur a-t-on communiqué? Combien d'entre eux ont décidé de rentrer volontairement dans leur pays? Et on s'est bien mis d'accord avec eux pour qu'ils ne demandent jamais le nom de nos clients.
Des clients à qui la Finlande continue d'accorder des droits tout en se montrant ferme. En 2017, 905 décisions d'expulsion ont été prononcées, dont 50 contre des mineurs. Ce qui ne signifie pas pour autant que toutes ces personnes déboutées du droit d'asile ont quitté le pays, précisent les services finlandais de l'immigration.
Il n'y aura plus de Airbnb à Palma, la ville principale de l'île de Majorque, dans les Baléares. Ainsi en a décidé le gouvernement régional pour lutter à la fois contre les problèmes de voisinage et de pression immobilière. Les explications en Espagne de François Musso.
À Palma de Majorque, le ras-le-bol est considérable contre les occupations touristiques. Des milliers de touristes qui n'occupent pas seulement hôtels, plages, places publiques, parcs ou centres commerciaux, mais aussi qui passent des jours, des semaines, parfois des mois dans des appartements. Pendant 6 à 8 mois par an, ces étrangers en goguette deviennent donc des voisins qui font la fête, qui souvent dérangent. Mais surtout des voisins qui, étant des clients très prisés d'appartements touristiques, provoque une forte hausse des loyers dans l'édifice et dans le quartier autour. En 2 ans seulement, on parle d'une augmentation de 40% des loyers. Conséquence aussi, les habitants de Palma sont, avec ceux de Barcelone, les citoyens espagnols qui consacrent la plus grande part de leur budget au paiement du loyer. L'an dernier, Pour répondre à ce sentiment de saturation et de rejet, le Parlement régional des Baléares avait limité le nombre d'établissements touristiques légaux dans l'île de Majorque, la majorité à Palma. Mais la mesure a été très insuffisante. D'où ce moratoire décrété par la municipalité de gauche de Palma, un moratoire qui exclut seulement les logements isolés ou en terrain rustique, ou bien situés dans des zones industrielles. Reste à voir si cela supposera, dans les faits, un reflux touristique.
Les meilleurs moments d'Accent d'Europe à retrouver demain sur RFI.